sur les chemins de la création. Une émission proposée par Clémentine Savine.
Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Il y a ceux qui n'apportent rien du tout, il y a ceux qui apportent seulement leur métier, et puis il y a ceux qui apportent leur propre univers.
On exprime des choses que les gens auraient du mal à exprimer de cette façon aussi intense.
Comment ils ont fait pour arriver à faire ça?
On crée, on transforme, on modifie, on jette tout, on recommence.
Ça, c'est la spécialité des gauchos bobos. Ils font de la merde et ils te disent que c'est de l'art.
C'est ça, être artiste.
Ça me met une pression assez conséquente.
C'est quelqu'un qui sort quelque chose à partir de rien.
Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission sur les chemins de la création. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Carole et Ananda. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va plonger au cœur de cette émission et avec ce thème, ce sujet particulier qu'on aime tant, la création. Donc, on est ensemble pendant une petite trentaine de minutes pour parler de ça et qu'est-ce qui nous traverse quand on crée nos processus. Voilà, c'est une discussion libre et la liberté nous tient à cœur ici dans les studios de Divergence FM. Alors d'abord, on a envie de savoir qui vous êtes et que faites-vous. Donc si vous voulez vous présenter brièvement, Carole et Ananda, n'importe.
Bon,
allez,
je me lance. Je suis Carole Boubli, donc je suis artiste mosaïste. J'ai mon atelier à Montpellier depuis quelques années et j'ai monté mon atelier en 2012. J'ai découvert la mosaïque, j'étais assez jeune, j'avais 13 ans, et je me suis passionnée pour toutes ces pierres, tous ces fragments qu'on taille. Pour en faire plein de décors, plein de choses possibles, plein de lumières, donc ça m'a toujours inspirée et j'ai décidé d'en faire mon métier. J'ai suivi des études en Italie et ensuite j'ai monté mon atelier en France, donc d'abord à Nice et ensuite à Montpellier. Voilà, je n'ai jamais rien fait d'autre que de la mosaïque, donc c'est mon métier de cœur et aujourd'hui mon métier tout court et ma passion aussi.
Du coup, moi, j'ai une confusion entre céramiste et mosaïste, c'est deux choses.
Alors, c'est pas le même métier, oui, bien sûr. La céramique, on a une matière qu'on cuit dans un four et on en fait ensuite un produit. La mosaïque, ça va être différents petits fragments, suivant la période, ça a été de la pierre, de la pâte de verre ou des galets. Et ensuite, avec la mosaïque contemporaine, ça peut être aussi tout type de matière, c'est-à-dire que là, on entre vraiment dans toute matière. Donc, ça peut être du recyclage aussi, ou voilà.
Okay.
Toute matière mise les unes à côté des autres crée une mosaïque. Il n'y a pas de cuisson. Il n'y a pas de peinture par-dessus. C'est des matières brutes assemblées les unes à côté des autres pour former un tout.
Ok, voilà. Merci. Et toi, Ananda, qui es-tu? Que fais-tu?
Alors, je m'appelle Ananda Brizzi et je suis poétesse. J'ai commencé à écrire avec le théâtre au démarrage, quand j'étais très jeune. Et petit à petit, en devenant maman, j'ai commencé à écrire des fragments. C'est rigolo. Des petits fragments. D'ailleurs, mon livre s'appelle Fragmenté. Donc voilà, ça. Et je me suis rendu compte que c'est de la poésie. J'en avais pas conscience au départ. Pour moi, c'était des croquis d'écriture. Et en fait, en découvrant un peu la poésie contemporaine, je me suis rendu compte que je faisais partie de cette famille-là. Du coup, j'ai commencé à être éditée en revue. Et puis après, ce sont les éditions derrière la salle de bain qui m'ont fait confiance, Marie-Laure Dagua. Et ensuite, a apparu donc Fragmenté chez Blast, édition Blast. C'est une petite maison d'édition indépendante qui est basée à Toulouse. Et voilà, je continue d'écrire et j'aime aussi beaucoup dire mes poèmes en public. Donc, je travaille avec un beatmaker qui s'appelle Numa Brouillé et avec qui on travaille ensemble pour faire des compositions communes, créer un univers commun. Voilà, pour dire ces textes-là en public. Et puis voilà, il y a plein de choses qui vont arriver là prochainement encore et j'en suis très heureuse.
Du coup, tu as le côté écriture de toi au papier et du papier à toi, et puis tu as aussi le côté scénique. Exactement. Avec l'ouverture au public.
Tout à fait.
Et ça fait penser, toi, Carole, du coup, tu as aussi un côté de toi à toi avec les petits fragments, la mosaïque, etc. Mais tu as aussi des expos ou des choses où tu ouvres comme ça avec un public, etc. Comment...
Alors oui, je suis souvent confrontée à du public, déjà régulièrement lors de stages. J'ai des ateliers aussi... Donc dans mon propre atelier, mais aussi sur des ateliers extérieurs, et ça peut être tout type d'intervention, et ça peut être aussi des conférences, et ça peut être plein de possibilités d'échange avec du public. Donc oui, c'est aussi ça fait partie aussi de mon métier.
Il y a les deux pans, que ce soit pour l'une ou pour l'autre, d'être dans sa créa, dans son atelier, dans son écriture, et puis après de ouvrir au monde. Mais
est-ce que c'est pas le principe d'une œuvre? D'une œuvre, oui, c'est de, elle devient accomplie quand elle est
exactement
partagée. J'ai l'impression que c'est quelque chose comme ça.
Ouais. Exactement. Alors on va aller remonter à la source et on va aller voir à quel moment justement le fait de montrer une œuvre, de créer une œuvre, de la montrer ou juste d'être touché par une œuvre, quand est-ce que ça vous attrape dans vos vies respectivement? Est-ce que vous avez un souvenir, un truc de quand est-ce que l'art vous...
saisit.
La création vous saisit, ouais. Est-ce que c'était hier? Est-ce que c'était il y a 30 ans?
Alors, pour ma part, je dirais que c'est quelque chose qui a toujours été là chez moi. J'ai toujours eu énormément d'images en tête. J'ai un flux constant d'images déjà toute petite. Souvent, c'était le soir avant de m'endormir. C'était des choses qui m'angoissaient parce que ça allait très, très vite et c'était très riche. Et au lieu de laisser l'angoisse me submerger, j'ai décidé de les sortir et d'en faire quelque chose de beau. Après, tout est subjectif, c'est pas forcément beau pour tout le monde ce que j'écris. Mais en tout cas, de m'amuser avec ces images, et plutôt que de les subir, de les accompagner et de les accoucher, et pour pouvoir en faire quelque chose. Et c'est vraiment ce flux-là qui est la matière première de ma créativité, et ça depuis toujours. Et je m'en rapproche chaque jour un peu plus, et c'est ce qui me fait du bien, vraiment.
Du coup, ça pourrait être associé à des zones d'ombre intérieures.
Oui, complètement.
Ok.
Ouais, je pense.
Ça serait le moteur, quoi,
ouais.
Quelque part.
Mm-hmm.
Quelque part, ouais. Chouette. Tu vas venir en faire quelque chose, les modifier, les transcender.
Je les laisse venir à moi. Et en fait, c'est vraiment... Ça se mêle entre souvenirs, sensations, émotions... Rêves, mes rêves aussi, ils contribuent énormément à ma créativité. Et je mélange tout ça et j'essaie de trouver un mot qui va réunir le maximum de ces choses. Et pour que ce mot, après, une fois qu'il est mis en bouche, il puisse exploser et libérer son contenu. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est ça, c'est la poésie, c'est prendre un mot, essayer de l'imaginer dans toutes ces positions, pas seulement dans la phrase, mais vraiment comme un petit diamant, en fait, comme un fragment que tu pourrais utiliser, toi, Carole, dans ton travail de mosaïste. Et je le place à un certain endroit et accolé aux autres, et ben il va venir se révéler et proposer une lumière particulière. Donc je trouve que ça se répond très, très bien.
Ouais, complètement. Ouais.
Les mots et les fragments.
Ouais, c'est ça.
C'est beau. C'est connecté, tout ça.
C'est une sacrée coïncidence, quand même. Ouais, complètement.
C'est ce que j'aime bien. C'est pour ça que j'aime bien mettre deux personnes ensemble d'un univers plus ou moins différent pour ça. Pour des fois, les moments où ça se rejoint. Et aussi célébrer les moments où ça s'écarte. Parce que, Voilà, la différence, c'est bien aussi. Enfin, tout est célébration. et du coup, je rebondis à Ananda. Donc, tes angoisses, il y a un truc de l'enfance, de l'angoisse, etc. Donc, c'est là où tu as un espèce d'acte de création, c'est de transformer tout ça dans ton imaginaire, etc. Et donc, dans tes mots, tu écris, enfin, tu as commencé à écrire là-dessus ou à cette époque-là ou après ou à dessiner ou
un peu des deux. Je dessine aussi beaucoup. Process. Ça s'est matérialisé sous forme de dessin. J'ai toujours dessiné petite et je dessine encore toujours. Toujours des formes très organiques. C'est des traits un peu voilà, c'est figuratif, mais c'est aussi très. Il y a une distorsion de la réalité, du réel. Et c'est vraiment, c'est organique. Mon écriture, elle est très organique. Et ce que je produis, c'est toujours très organique. C'est viscéral, en fait. Je me rappelle plus très bien de ta question, du coup.
On remontait à la source, ouais. et les angoisses d'enfant, etc. Et comment tu t'es mis à créer avec ça et à dealer avec aussi pour en faire quelque chose.
Ça s'est fait tout seul, en fait. Ouais, c'est vraiment c'est ça.
Mais
c'est...
t'es passé par un média après de, enfin avec ça, avec ces angoisses.
Écriture et dessin.
Ouais. Écriture, dessin. Mmh. Donc ça fait très très longtemps.
Ouais, toujours en fait. Ça a été c'était une nécessité en fait de transformer ça. Sinon, je pense que j'aurais frôlé la folie. Il y a quelque chose de cet ordre-là.
Et de salvateur, du coup.
Ouais, très salvateur, complètement.
Super, merci. Mmh. Et toi, Carole, est-ce que tu arrives à remonter, à savoir à quel moment ça t'attrape, la création ?
Alors, peut-être déjà dans mon imaginaire enfantin, puisque oui, bien sûr, forcément, il y a quelque chose quand on est enfant. Voilà, peut-être dans mes discussions internes, j'allais dire. J'étais aussi très souvent la porte fermée dans ma chambre. J'écrivais aussi beaucoup. J'ai eu un journal intime très, très, très tôt. Je pense qu'à partir de 7-8 ans, j'avais un journal intime tout le temps. Donc j'écrivais toujours tout ce que j'avais à l'intérieur. Et j'ai commencé le dessin à 13 ans. Je ne sais pas s'il y a eu quelque chose de très artistique autour du dessin, parce que je ne me souviens pas de grand-chose. Mais je sais qu'avec la mosaïque, il y a vraiment eu un déclic. Donc, à côté de mon cours de dessin, il y avait un cours de mosaïque. Et là, j'ai eu un déclic. Enfin, je me souviens vraiment avoir eu un déclic de me dire « Ok, alors là, ce n'est pas du tout pareil. Ils font du dessin, mais en cassant des pierres. » Et je pense que là, j'y voyais vraiment une autre dimension et une manière de pouvoir m'exprimer. Beaucoup plus en matière, et je pense que j'avais vraiment besoin de ça parce que je devais avoir beaucoup de choses à l'intérieur de moi et vouloir les exprimer aussi d'une manière que je trouvais peut-être pas dans le dessin. Et assez rapidement dans cet atelier, du coup, j'y ai trouvé vraiment un refuge. Il n'y avait pas de personne de 13 ans dans cet atelier, donc j'ai dû attendre de mes 11 ans à mes 13 ans avant de faire de la mosaïque, puisque du coup on casse avec une marteline, c'est comme un marteau en forme de demi-lune, et on casse de la pierre, donc c'était un peu dangereux quand on a 11 ans. Et du coup
tu n'avais pas accès
pendant... J'y avais pas accès, mais j'allais voir tout le temps pendant 2 ans, et je pense que ça a nourri un petit peu univers, ma frustration, tout ça. Et j'étais toujours en train d'aller voir l'atelier, comment ils évoluaient dans leur mosaïque, etc. Et ils me connaissaient tous, quoi.
Ah, mais c'est super. Et en plus, c'est un super apprentissage de regarder et tout.
Ouais, c'est un super apprentissage.
Ça veut dire que 2 ans est le jour où. Enfin, moi, j'imagine le truc, ouais. L'explosion.
Un petit peu, c'était ça.
Le jour où t'as mis la main à la pâte et tout.
Et ce qui était chouette, c'était qu'il n'y avait vraiment pas de personnes de mon âge. Donc, il n'y avait vraiment que entre 40 et 90 ans, quoi. Donc, j'étais la seule enfant.
Enfant, ouais, même.
Et du coup, j'étais complètement dans ma bulle, en fait. Et j'ai pas grandi dans un milieu artistique. J'avais pas de référence artistique, pas de parents artistes. Ou j'y connaissais rien du tout. Et du coup, c'était très bien, puisque j'étais très libre de pouvoir... y mettre tout ce que je voulais, sans référence et sans, voilà, totalement libre. Et je pense que c'est vraiment cette liberté qui m'a permis de pouvoir rêver avec les matières, en fait. Et très rapidement, je pense que la première sensation de création, ça a été de pouvoir me libérer du dessin, justement. Parce que chaque année, notre prof de mosaïque nous disait de de proposer un projet. Et moi, en fait, c'était toujours très, très difficile pour moi de proposer un projet. Et je lui disais toujours, je sais pas, je vais faire de la mosaïque. C'est pas grave, t'inquiète pas, je vais faire de la mosaïque. Et il disait, mais amène-moi quand même un visuel, montre-moi quelque chose. Et je lui disais, mais moi, j'ai tout dans ma tête, je vais faire de la mosaïque. Et ça a été difficile au début, parce que du coup, ça m'a fait un peu des blocages, parce que je voulais me libérer très rapidement du visuel. Et au bout du troisième projet, il a été OK pour que je fasse des mosaïques sans dessin. Et je faisais juste des esquisses en écrivant. Voilà, là, ce sera blanc. Et puis ensuite, petit à petit, ce sera un peu plus comme ci, comme ça. Donc, je faisais plutôt des descriptions. Et j'écrivais aussi. J'ai toujours beaucoup accompagné mes créations d'écriture. Du coup, tout était beaucoup dans ma tête. Et voilà, c'est beaucoup comme ça que la création est née en fait en moi, à travers la matière. Donc ça part de la matière, de l'excitation qu'elle me suscite en fait. Mmh. Du coup, j'ai vraiment très envie de les mettre les unes à côté des autres, et quasiment ça se fait un peu tout seul à travers mes mains.
Et est-ce que tu utilises toujours ce même processus-là à l'heure qu'il est, de ne pas faire de dessin, de faire ces esquisses est-ce que t'as gardé ça?
Alors, grâce à mon premier professeur, oui, je l'ai toujours gardé, en tout cas dans ce qui est de ma recherche artistique. Toute la partie plutôt artisan, puisque du coup je suis artiste-artisan, toute la partie artisanat, non, parce que parfois j'ai des commandes où on me donne carrément un visuel et ensuite je le fais, donc là c'est vraiment le savoir-faire qui va opérer. Et ça, du coup, bien sûr que même si je peux en mettre une petite signature, pour moi, ce n'est pas exactement une recherche artistique. Ce que je considère vraiment une recherche artistique, ça va être vraiment tout ce qui va être de mon univers et que je ne contrôle pas.
Et du coup, ça rejoint, quand tu dis, il y a un truc qui m'a popé à l'oreille, et tu dis que tu étais un peu comme vierge de toute conception artistique, puisque tu n'avais pas baigné dans cet univers, mais que tu avais tout dans ta tête et tout. Donc, c'est une liberté immense. En même temps, c'est hyper. Ça me semble hyper vertigineux, parce que tu te raccroches à ce qu'il y a en toi, mais du coup, après. Justement, du coup, comment tu trouves une certaine sécurité, un certain truc là-dedans, sur quoi tu t'accroches, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, il n'y a pas de contraintes, tu as la liberté, t'as pas de modèle type, ou est-ce que du coup tu te les construis et tu viens nourrir avec des choses à force d'être dans ce milieu, ou parce que c'est l'infini, quoi.
Justement, je pense que c'est ça qui me rassure, que ce soit totalement vide et que la création soit totalement possible. Mmh. Je suis contente d'avoir commencé la mosaïque de cette manière-là, parce que ça m'a tout appris pour moi, parce qu'ensuite j'ai fait des écoles beaucoup plus académiques, où les gens disent que les choses sont comme ci, comme ça, etc. Et je pense que j'aurais jamais eu cette liberté, justement. Et je me suis rendu compte d'ailleurs de mes 13 ans à mes 19 ans, avant d'entamer des études de mosaïque, que je rêvais tout le temps de rythmique dans mes rêves, toute la nuit, tout le temps. En fait, c'est comme si mes rêves étaient tout le temps animés de tesselles, puisque les petits fragments, on les appelle des tesselles. Donc je pense que j'ai baigné en fait là-dedans, et j'ai perdu ça ensuite quand j'ai commencé mes études, et ça a été un deuil un peu. Et voilà, enfin, je pense que du coup, tout simplement, tout ce qui s'animait en moi, je pouvais le figer dans une œuvre. Et là où je m'accroche, je ne sais pas ce qui m'est venu en tête, c'est que du coup, ce n'est pas moi qui m'accroche, c'est les tesselles qui s'accrochent, en fait, c'est pas moi.
Carrément. Merci. Est-ce que ça t'évoque quelque chose, toi, Amanda, cette notion de liberté totale ou de contrainte dans tes process à toi
Alors oui, alors déjà, merci pour tesselles, parce que j'ai appris un mot.
Ouais,
j'en ai un nouveau, super. Je pense pas qu'il y ait vraiment de contraintes quand on a été influencé par des familles d'artistes. Je suis pas convaincue de ça. Au contraire, je trouve que quand on vit dans une famille artiste, il faut aussi trouver son propre univers et s'affranchir vraiment de celui des autres. Je pense que de toute façon, si on n'a pas cette liberté-là, on ne peut pas se révéler, on peut pas se révéler pleinement. On devient copieur quelque part et on est tout le temps influencé par des choses et d'autres, que ce soit la musique, que ce soit les lectures qu'on rencontre. Enfin, il y a des influences, nécessairement, c'est inévitable. Par contre, je pense que devenir artiste, c'est justement ouvrir ce champ des possibles-là et créer une page vierge et qu'on peut remplir de tout ce qu'on veut. Et si on ne fait pas ça, on ne produit pas vraiment quelque chose d'unique. Enfin, j'ai l'impression, c'est mon humble avis. Après, moi, je viens d'une famille très artiste. J'ai une grand-mère qui vient d'être installée à l'Académie des Beaux-Arts. J'avais une maman artiste peintre. Voilà, donc j'ai toujours baigné dans des univers artistiques. Mais ça m'a pas... J'ai pas l'impression que ça m'ait influencée dans la manière dont je conçois la poésie. J'avais jamais rencontré de poète avant d'écrire de la poésie, de poète ou de poétesse. C'est ensuite que, quand j'ai commencé à être éditée, que là j'ai rencontré mes pères et que j'ai vu qu'il y avait des langues différentes à chaque fois. Et ça m'a inspirée, ça m'a aussi décomplexée par moments de me dire « Ah mais en fait, on fait vraiment ce qu'on veut. » Donc je pense que l'influence, elle peut aussi décomplexer. Et j'ai pas l'impression d'avoir des contraintes, au contraire. Plus je m'affranchis de ces contraintes-là...
Et pas de code non plus.
Non, plus je m'en affranchis, plus je me sens libre. Et il y a ce côté un peu... Et je pense que Carole, elle doit le rencontrer parce qu'elle a le côté artisane et le côté créatrice, artiste. Et du coup, il y a une technique, mais qu'elle met au service de sa liberté, justement. Et les mots, c'est pareil, on peut les utiliser de manière très scolaire, mais je peux aussi complètement les éclater. Et justement, c'est ce que j'aime faire. Je m'affranchis de toute contrainte pour pouvoir écrire.
Est-ce que tu veux nous partager tes mots? Et, là, quand tu dis les éclater et tout, j'ai envie de les entendre. Et je pense que je pense que tu as envie de nous lire. Dis-moi si
ça
je me
ferait
trompe.
Grand plaisir. Ça me ferait vraiment plaisir de vous lire un petit bout.
Donc, est-ce que tu veux nous dire deux mots sur ce que tu as dans la main, qui est un ouvrage qui s'appelle Fragmenté?
Donc, du coup, oui, voilà, c'est Fragmenté. Il est apparu en mars 2025 aux éditions Blast. Et voilà, j'en suis très contente. Il continue sa petite route. On le lit énormément en festival, en librairie. Là, je vais le lire prochainement à la Maison de la Poésie de Paris, en compagnie de Chloé Delhomme et d'autres autrices. Et oui, donc je vais vous lire un petit bout.
Allez, c'est parti, merci.
Les poèmes sont des organes comme les autres. Ils pulsent, respirent, jaillissent dans les tunnels de chair comme des génies qui sortent de leurs lampes. Leur premier plan change de visage au gré de l'écoulement des fluides. Quelque chose s'allume ou bien s'éteint. Ça me subjugue l'œil interne d'une agréable terreur. Je t'embrasse. Les langues se mélangent et font des fruits, mûrissent en monstres qui dégueulent leurs langues puis leurs tripes jusqu'au trou de chair qui s'ouvre sur ailleurs. Ailleurs, c'est blanc, et puis le décor se dessine avec des traits qui giflent et des couleurs qui hurlent aux oreilles internes, celles qui sont collées le long du tube digestif. Je m'arrête là parce que je peux lire des heures après, et je sais que le temps est compté en radio.
Moi, j'aurais pu t'écouter encore des heures, j'étais partie là, dans le tube digestif, tu vois, voilà. J'y étais.
On se retrouve un peu dans des endroits sombres et organiques quand je me mets à lire, et ouais, c'est ce que j'aime.
Merci, merci pour ce partage en tout cas, Amanda.
Avec grand plaisir.
Ça a l'air très envoûtant.
Ah ouais, toi aussi, Carole, ça t'a...
Il y a quelque chose d'envoûtant, ouais, ouais, ouais. C'est rigolo parce que ma dernière exposition, j'y pense maintenant, en fait, ça s'appelait Poésie de fragments.
Ah, mais c'est incroyable.
Oh là là, j'adore.
Elle nous a bien castés.
Ouais, ouais.
Et oui, on peut le dire, mais de base, il y a eu un remaniement de binôme aujourd'hui, voilà. et que en plus, enfin, c'était pas prévu, mais c'est ça aussi la spontanéité, et on retrouve ça aussi dans la création, le fait, l'accident en fait, bing, c'était pas prévu que vous soyez toutes les deux, puis en fait ça fait des échos, puis c'est comme ça, et puis on lâche prise.
Je pense que c'est intéressant de pouvoir aussi peut-être faire un petit zoom là-dessus. Par exemple, moi, quand je pense au mot poésie, c'est quelque chose qui pour moi, dans ma création, est très très proche. J'ai l'impression de créer des poésies avec les pierres, ou en tout cas qu'elles me suggèrent des... Et que quelque part, en fait, c'est comme si mes tesselles étaient des mots et que je les composais pour en faire des phrases. Et forcément, moi, quand je crée, je souhaite raconter des histoires, même si je ne les connais pas encore. En tout cas, ça raconte des histoires. Ça, on ne raconte pas qu'une en général, il y en a vraiment plusieurs. Et du coup... sachant qu'il y a déjà une histoire ou des histoires dans la pierre même, puisque souvent c'est des matériaux aussi naturels ou des matériaux même pas naturels mais qui ont aussi des vies, des transformations.
C'est
donc
une super belle matière.
Finalement, pour moi, c'est de la poésie. Et du coup, ce serait intéressant de voir aussi, toi, de ton côté, pourquoi tu as choisi fragmenter, puisque moi, je choisis très volontiers le mot poésie, que j'aime peut-être plus que le mot art, d'ailleurs. Ouais. Puisque du coup, de la poésie, pour moi, c'est encore plus suggestif que l'artistique, qui est plus dur, quoi, plus archaïque.
Mmh. Okay. Pourquoi j'ai choisi fragmenter ? Parce que c'est vraiment des... En fait, fragmenter, je sais pas si... Enfin, ça se voit pas, mais il est écrit et il est barré. Et donc, en fait, fragmenter, c'est plein de petits morceaux. Et c'est la ligne qui relie le tout. Donc c'est vraiment des petits morceaux qui sont éclatés. Ça ressemble aussi très fort à ma personnalité, qui est très éclatée, qui est très fragmentée. Et grâce à la poésie, je fais ce fil rouge, je recous les lettres ensemble et ça crée quelque chose de recousu. Okay. Voilà, un peu abîmé, mais...
C'est proche.
Mais toujours... Mais oui, c'est proche. C'est très très proche avec ton processus, ouais.
Est-ce que Carole, tu veux nous parler d'un de tes processus sur une œuvre en particulier ou une histoire associée à une œuvre dernièrement, peu importe.
Ce qui me vient à l'esprit, c'est peut-être de pouvoir raconter le processus créatif que j'ai appris, que j'ai aussi. Apprivoisé, on va dire, puisque on le sait pas quand il arrive, et puis c'est après coup qu'on se rend compte que qu'il s'est passé quelque chose, mais ce quelque chose, sur le coup, on sait pas, on est complètement emporté par ça. Je pense que la première fois, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais comme c'était une période, la première fois, oui, que je suis rentrée dans un processus créatif, c'est quand vraiment justement j'ai pu clairement faire une grande pièce, tout en ayant décidé justement de ne pas avoir de dessin. Et ça correspondait à une commande libre, juste avant de partir à l'école en Italie, du coup. C'était un architecte qui m'avait commandé ça. C'était un cadeau, de me demander une commande libre. Du coup, j'avais juste demandé à ce monsieur, est-ce que je peux voir comment c'est chez vous ? Parce que faire une commande libre sans connaître la personne, pour moi, c'était un peu bizarre. Donc, j'ai vu que c'était très bordélique chez lui. Et ça m'a inspiré beaucoup de blanc et de quelque chose de très lisse et de très calme. Et de très, voilà. Je me souviens être rentrée d'une exposition que j'avais vue au Centre Pompidou de Beaubourg, où tout justement, il y avait des énormes salles blanches où on rentrait dans une salle. Je ne me rappelle plus du nom de l'artiste.
C'est ma grand-mère. C'est Tania Moureau, c'est les chambres de méditation. C'est ça ?
Peut-être. Alors, je peux faire une description.
Tu rentres dans une salle.
On rentrait dans une grande salle.
Et
là, il y avait en fait plein d'objets blancs.
Ouais, c'est...
Plein d'objets
blancs.
Alors
là, on a un truc un peu inédit.
Tu regardes, c'était pas une chambre avec un son ?
Alors, il n'y avait pas de son,
il
me
semble. Non, c'était pas ça. Mais parce qu'elle a fait à Beaubourg les chambres de méditation.
Alors, je regarderai, je peux regarder sur le
ça
téléphone, mais on va laisser
ça.
Les téléphones,
ouais.
Voilà. Ouais. Mais en tout cas, je me souviens de rentrer dans des grandes salles.
Blanches,
avec des objets. Et le fait qu'on soit dans une salle blanche, avec des lumières... très blanche, il y avait très peu d'ombre, donc on distinguait très peu les choses et en même temps on les distinguait quand même, mais tellement peu que ça en était très 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 émouvant. Et j'étais restée complètement dans cet univers blanc et j'avais adoré cette sensation. Et je ne sais pas si vous connaissez le marbre de Carrare qui est très très connu. Le marbre de Carrare, c'est un marbre blanc, c'est comme si on coupait un énorme sucre et que vous étiez immergé dans du sucre, donc plein de cristaux qui sont blancs. Et il va du plus gros, d'une plus grosse granulométrie à une plus fine. Donc le marbre de Carrare très fin, c'est un marbre blanc pailleté. Mmh. Donc avec voilà. Ouais. Et moi, c'est celui que j'aimais le plus à cette période-là. C'est celui vraiment que sur lequel, enfin, qui me donnait envie de m'exprimer. Et du coup, j'ai créé une œuvre toute blanche qui s'appelle L'Envolée. Et j'ai laissé en fait cette mosaïque se créer un peu à travers moi dans une envie de vraiment avoir une ligne qui monte petit à petit, comme si ça déployait une sorte de feuille de palmier, sans que ce soit figuratif, mais vraiment avec des branchages qui montent. Et je l'ai fait en diptyque avec une première partie et une deuxième dans laquelle il y a un rond creusé. Et en fait, la ligne, du coup, elle monte au-delà du rond. Voilà, il y a une envolée. Donc c'était une œuvre pour moi qui a été vraiment qui m'a laissé totalement libre en fait. Et je me rappelle à la fin de cette création, qui m'a pris à peu près un mois et demi, deux mois. Je l'avais fait dans mon garage chez moi, chez mes parents, avant de partir en Italie, à 17 ans. À 18 ans, 19 ans, quelque chose comme ça. Je me rappelle avoir ressenti que c'était pas moi qui l'avais fait. Et que c'était un peu bizarre de dire ça, mais en même temps, c'était vraiment ce que je ressentais. Et quand mes amis m'avaient dit « Mais pourquoi tu dis ça ?» Je dis « Mais en fait, c'est parce que c'est pas vraiment moi, en fait. Je mets les pierres, mais c'est les pierres, en fait, qui veulent se mettre les unes à côté des autres parce qu'elle, elle va bien avec elle. Regarde là. » Et puis là, j'avais mis un petit rouge. Je peux pas en mettre juste un à côté, donc il faut que je le mette plus loin. Et ça se crée tout seul. Et voilà, et du coup, je me souviens avoir aussi dit sacré. Et du coup, moi, dans ma tête, c'était plutôt sacré, c'est dit. Et en fait, il y a quelque chose aussi de l'ordre de sacré qui opérait sacré, aussi. Carrément. Et je l'ai ressenti sans savoir vraiment ce que je faisais. Et ça a été assez violent de rentrer dans des écoles académiques ensuite. Mais je me souviendrai toujours de cette expérience qui, du coup, et la première école à laquelle j'essaye aujourd'hui de revenir, et j'essaye de combiner avec tout ça, c'est-à-dire mon savoir-faire, tous les savoirs académiques qui en soi aussi sont très intéressants, et cette première expérience qui a été vraiment l'expérience de création artistique. Et donc voilà, comme si on était un peu un canal, et puis les choses se font aussi à travers nous et notre envie de créer sans trop savoir vraiment pourquoi, mais voilà.
Merci. C'est vrai qu'il y a une dimension sacrée et de canal, et je sais pas, Ananda, toi, si ça te parle des fois, est-ce que tu canalises, tu sors de toi et ça écrit.
Mais quand Carole dit que c'est, elle a l'impression que c'est pas elle qui l'a fait. Moi, ça, je le ressens tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a ce truc où je me détache, en fait. C'est voilà.
C'est là où je trouve qu'il y a une dimension de lâcher prise qui est importante. Et c'est là où, du coup, l'art opère, il me semble, parce qu'il y a un détachement qui est possible, n'importe quel type de détachement d'ailleurs. L'inconscient peut être, totalement libre de pouvoir exprimer. Et l'art peut exister, en tout cas, en toute liberté. Et je trouve que c'est là que c'est vivant, et ça m'arrive parfois de regarder du coup une œuvre et de me dire waouh, qu'est-ce que j'ai fait, et je sais pas ce que j'ai fait, et je le redécouvre parfois quelques années plus tard, où je remets un autre titre, et parfois je le mets en vente, parce que pour moi la vente est très compliquée, j'aime pas vraiment vendre ce que je fais, c'est dur de me détacher. Et c'est qu'une pièce unique, donc c'est assez dur.
C'est quelque chose qui nous traverse comme ça, qui
n'a pas de prix, en fait.
Ouais, c'est clair, ce sont des vrais sujets. On va aller doucement vers le mot de la fin pour clôturer ensemble cette émission. Le mot de la fin, c'est un seul mot qui définirait votre rapport à la création, aussi large soit-il. si vous deviez donner un mot à la volée.
Ben moi, je l'ai déjà et ce sera le titre de ma prochaine exposition parce que du coup, il m'est venu. Traverser.
Traverser. Ben voilà, c'est bien, c'est ce que je... c'est incroyable, c'est raccord aujourd'hui, incroyable. Et toi, Ananda ?
Mais là, le mot qui m'est venu sans que je réfléchisse, c'était libre.
Libre.
Ouais, je crois que c'est ce qui me rend libre.
Une traversée libre. Libre et traversée. Merci beaucoup, Ananda et Carole, pour votre intervention là, dans une émission très connectée aujourd'hui. Ça fait un bien fou. Et merci à Alice Rollet à la réalisation. Et on se retrouve très bientôt sur les chemins de la création. Au revoir.
Au revoir.
Merci, merci. Au revoir.
Sur les chemins de la création. Une émission proposée par Clémentine Savine.
Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Il y a ceux qui n'apportent rien du tout, il y a ceux qui apportent seulement leur métier, et puis il y a ceux qui apportent leur propre univers.
On exprime des choses que les gens auraient du mal à exprimer de cette façon aussi intense.
Comment ils ont fait pour arriver à faire ça ?
On crée, on transforme, on modifie, on jette tout, on recommence.
Ça, c'est la spécialité des gauchos bobos. Ils font de la merde et ils te disent que c'est de l'art.
C'est ça, être artiste. Ça met une pression assez conséquente.
C'est quelqu'un qui sort quelque chose à partir de rien.